Il est 3h30 en temps universel, 2h de plus, 5h30 ici à Paris, vous êtes sur la Radio du Monde.
Édouard Dupénouat.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette première édition africaine sur Radio France Internationale, RFI qui se met à l'heure de la planète bleue, conférence de l'ONU sur les océans, aujourd'hui dans le sud de la France, où l'urgence de préserver la source originelle sans doute de la vie sur Terre. Édition spéciale ce matin sur nos antennes, grand reportage ce soir, illustration dans nos journaux. Nous sommes dans quelques minutes entre le Sénégal et l'océan Indien. Mais ce journal s'ouvre d'abord au Kenya. Indignation après la mort d'un jeune homme quelques heures après son arrestation par la police. Il se serait lui-même infligé ses blessures finalement mortelles, c'est ce que disent les forces de l'ordre. Les ONG réfutent fermement cette version des faits. Retour mouvementé au Cameroun pour Maurice Kamto. L'opposant entendait rencontrer des cadres de son parti, le MRC, hier à Douala, mais il n'a pas pu sortir de son domicile. Au Congo-Brazzaville, le chef de la police demande que l'on désengorge les cellules. Il souhaiterait réserver notamment la garde à vue aux suspicions de crimes et délits les plus graves. Et puis les sports aussi, bien sûr, dans cette édition, avec la très belle opération décidément de la République démocratique du Congo pour sa fenêtre de matchs internationaux. C'est du foot, bien sûr. Les défenseurs des droits humains au Kenya s'indignent donc après la mort en cellule d'un jeune homme gardé à vue. Albert Ojwang a été déclaré décédé hier, 24 heures après son arrestation. Les forces de l'ordre l'ont interpellé en l'accusant de fausses publications après des messages qu'il avait postés sur le réseau X. Mais le lendemain, ses proches apprennent qu'il est mort quelques heures plus tard, après des coups à la tête qu'il se serait lui-même infligé. Les organisations de défense des droits de l'homme remettent en cause cette version. Récit des faits, Alban Tiroir.
Albert Ojwang a été arrêté samedi dans le comté d'Homabay, dans l'ouest du Kenya. En cause, une publication sur X qui aurait insulté un officier de police. Il a ensuite été conduit à Nairobi où il a passé la nuit en détention. C'est lorsque son père vient lui rendre visite dimanche qu'il apprend le décès. Dans son communiqué, la police kenyane affirme qu'Albert Ojwang s'est blessé après s'être cogné la tête contre le mur dans sa cellule et a été déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. Une version officielle qui n'a pas convaincu l'opinion publique alors que les forces de l'ordre sont régulièrement accusées de tueries extrajudiciaires au Kenya. En ligne, les Kenyans ont dénoncé une tentative d'étouffer l'affaire sous le hashtag Justice pour Albert Ojwang. Les ONG de défense des droits humains demandent une enquête. Ce décès doit être traité comme une mort suspecte, insiste Irungu Houghton, directeur de la branche kenyane d'Amnesty International. L'hypothèse du suicide ne tient pas pour Faith Odhiambo, la présidente de l'association des représentants du droit, citant des marques de blessures sur plusieurs parties du corps d'Albert Ojwang. La police affirme qu'une investigation a été ouverte. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Le Kenya et l'arrestation d'un militaire britannique après des accusations de viol. Londres confirme l'interpellation d'un de ses soldats. Les faits incriminés se seraient produits le mois dernier à Naniouki, dans le nord du pays, près de la Batouk, l'unité de formation de l'armée britannique dans le pays. Des faits qui ravivent d'ailleurs la controverse autour de cette unité. Il y a 13 ans, Agnès Wanjiru, une jeune Kenyane, avait été retrouvée morte dans une fosse septique. Elle avait été vue quelques heures plus tôt en compagnie de soldats britanniques. La lumière n'a jamais été totalement faite sur cette affaire. Un retour mouvementé au Cameroun pour l'opposant Maurice Kamto. Le candidat déclaré à l'élection présidentielle du mois d'octobre revient au pays après une tournée en Europe. Il avait prévu hier de se rendre au siège de son parti, le MRC, à Douala, capitale économique, pour y rencontrer des responsables locaux. Une foule a afflué dans l'après-midi au quartier d'Eido en espérant voir le leader du parti. Mais les forces de l'ordre se sont mobilisées autour du siège du MRC. Et les autorités n'ont pas laissé Maurice Kamto quitter son domicile. C'est finalement dans une vidéo diffusée en ligne que l'opposant a appelé ses partisans à rentrer chez eux dans le calme. Le vice-président du MRC, maître Emmanuel Sim, dénonce un abus de la part des autorités camerounaises.
Il nous a été dit que cette réunion n'aurait pas été déclarée. Nous estimons pour nous qu'on n'a pas déclaré une réunion qui se tient dans les locaux d'un parti politique parce que c'est une réunion absolument privée. Elle n'a rien d'une réunion publique. On s'est rendu compte que c'était une interdiction par les autorités. Cela a été communiqué à nos militants par des policiers sur place. Ils leur ont dit qu'ils ont reçu l'ordre d'empêcher que le président national du MRC, Maurice Kamto, puisse tenir la réunion au siège de son parti. Il s'agit d'un abus absolument inadmissible. Monsieur Kamto a été interdit de sortir de chez lui à Douala. Il a reçu des policiers qui lui ont signifié qu'il ne peut pas partir pour aller où que ce soit. Il a demandé que lui soient présentés les documents administratifs. Rien ne lui a été présenté. Et il y a là ce qu'on appelle en droit une véritable voie de fait. C'est une séquestration en bonne et due forme.
Maître Emmanuel Sim, vice-président du MRC, propos recueillis par Amélie Tullet. Un très lourd accident de la route avant-hier soir en Tanzanie. 28 personnes au moins sont mortes dans le sud-ouest du pays. Il semble que ce soit les freins d'un camion qui ont lâché. Le véhicule est entré en collision avec deux autres voitures, dont un minibus qui a été précipité au fond d'une rivière. La présidente Samia Sulu Hassan a présenté ses condoléances aux familles des victimes dans un message publié sur le réseau X. Le directeur général de la police au Congo-Brazzaville tente de désengorger les cellules de garde à vue et de détention provisoire, mais sans s'attirer les faveurs des défenseurs des droits de l'homme. Le général André-Fils Aubameyitou envoie une note à ses services en leur intimant de limiter considérablement cette pratique de la garde à vue. Il demande qu'elle soit réservée aux suspicions de crimes et délits les plus graves, avec accord préalable du procureur. Les infractions de moindre envergure devraient, à ses yeux, échapper à cette détention si la personne est susceptible de se présenter en justice. Mais les ONG estiment que cette circulaire ne résoudra pas le problème de fond de l'engorgement des cellules. Explication à Brazzaville avec Loïcia Martial.
Cette initiative a suscité des critiques parmi les défenseurs des droits humains. Il y a encore plus de 2 semaines, 6 jeunes sont décédés en prison alors qu'ils étaient en détention provisoire. Pour Bertrand Meunier, du mouvement Ras-le-bol, cette mesure arrive trop tard et ne règle pas le problème de fond.
Mais moi je pense que le directeur général de la police, il est informé depuis belle lurette de ce qui se passe dans les prisons. Et donc, étant autorité hiérarchique de ses commissaires, il devait prendre une telle note depuis longtemps. Et moi je pense que c'est le médecin après la mort.
Selon les informations fournies l'an dernier par Prison Insider, une ONG française, la surpopulation carcérale serait au Congo de plus de 300%. Pour Rock et Lojunzobo, du Cercle des droits de l'homme et de développement, il faut revoir l'ensemble du système.
Le problème de la surpopulation au niveau des lieux de garde à vue est dû tout simplement au manque d'infrastructures adaptées au contexte actuel. Donc il faut que l'État commence par d'abord construire tout ce qui est structure pour les gardes à vue et même les prisons.
Selon une source proche de la police, chaque jour des dizaines de jeunes sont arrêtés, souvent pour des soupçons d'associations de malfaiteurs. Ils restent en prison sans pouvoir se défendre et sans voir de juge parfois plusieurs mois durant. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
Il est 4h38 à Brazzaville.
Édition spéciale sur RFI. Troisième conférence des Nations Unies sur l'océan.
Elle ne porte pas officiellement le petit nom de COP, mais vous venez de l'entendre, elle reste une conférence des Nations Unies. La suite de ce journal, c'est à Nice, dans le sud de la France, à quelques heures de l'ouverture de la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan. Plusieurs dizaines de dirigeants mondiaux sont attendus sur les bords de la Méditerranée pour que le monde se mette d'accord pour sauvegarder ce qui fait le nom de notre planète bleue. On ne saurait pas faire la liste de tous les domaines pour lesquels les mers du globe sont indispensables, de la régulation du climat en passant par l'absorption du carbone, à la biodiversité ou encore la ressource pour les populations. On ne saurait pas non plus faire la liste de tous les dangers qui pèsent sur ces mers. L'acidification, la surpêche, la pollution, les pollutions en général. La rédaction et les magazines de RFI font une large part aujourd'hui à cette conférence onusienne de Nice. Et on l'illustre tout de suite au Sénégal, où l'océan Atlantique, nourricier, moteur économique pour des millions de personnes, est devenu progressivement une mare à peu près vide. Les pêcheurs ne remontent plus rien dans leurs filets, ou si peu. Où sont passés par exemple les milliers de yaboy, ces sardinelles rondes que l'on prenait à foison? La ressource est pillée, disent les scientifiques, avalée et transformée en farine. Timothée Brochier est chercheur à l'IRD, Institut de Recherche pour le Développement.
Il y a eu quelque chose qui s'est passé à partir des années 2010-2014, c'est le développement de l'industrie de farine de poisson à terre. À commencer par la Mauritanie, qui est le pays qui est un peu un pays qui focalise les populations de poissons qui migrent dans la zone. C'est-à-dire que dans cette zone-là, ils sont présents toute l'année. Et bien dans cette zone-là, ils ont construit des dizaines et des dizaines d'usines de farine de poisson. Chacune de ces usines a une capacité de traitement qui dépasse les 300 tonnes par jour. Ça, c'est les petites, hein. Ça va jusqu'à plus de 600 tonnes par jour pour les grosses. À Nouadhibou, vous en avez une quarantaine. L'autre très gros producteur de farine mondiale, qui était le Pérou, à ce moment-là, il y a eu un écroulement de population là-bas. Il y a eu un report un peu de ce marché vers l'Afrique de l'Ouest. Donc en particulier cette sardinelle ronde s'est complètement écroulée suite à cette exploitation qui a eu très très côtière dans la zone où vraiment elle est très facile à attraper et les usines ont été construites à côté. C'est vraiment le problème des farines animales qui créent une demande infinie pour ces poissons-là. Alors que ces poissons-là pourraient largement nourrir toute la population d'Afrique de l'Ouest sans souffrir de surexploitation.
Timothée Brochier de l'Institut de Recherche pour le Développement, propos recueillis par Léa Lisa Vesterov, édition spéciale sur RFI à compter de 6h, temps universel. Dans 5 minutes, nous, on embarque aussi pour la mission Plastique Odyssée dans l'océan Indien avec notre correspondante à Madagascar, Sarah Teto, qui pour l'heure nous fait découvrir tout autre chose. Rendez-vous sur la Grande Île, où l'on parle maintenant de Kamishibai. Et si la sonorité vous semble plus proche d'un pays asiatique que des sons malagas, c'est normal. C'est que l'on parle en fait d'une méthode japonaise d'initiation à la lecture et à l'écrit. Cette méthode, c'est d'abord celle d'un orateur ou d'une oratrice qui raconte une histoire illustrée sous les yeux du public par un support en bois ou en papier, manière de captiver notamment les jeunes enfants et de leur faire progressivement associer les sons et leur signification. Reportage.
On ouvre grand les oreilles et maintenant on ouvre grand les yeux pour écouter une magnifique histoire.
Ce matin-là, ils sont une trentaine de jeunes enfants assis devant Ravaka Tairmiam. Entre les mains de la conteuse, un petit théâtre en bois dans lequel est insérée une série d'illustrations.
Quand on ouvre notre petit théâtre, nous allons faire ah. Encore une fois Tout le monde voit bien?
Oui.
Nous allons raconter l'histoire de Zhao le caméléon.
La narratrice raconte l'histoire en faisant défiler les images une par une. L'auditoire est captivé.
La lecture, ça commence aussi par écouter. L'intérêt, en fait, c'est de partager un moment avec les enfants et les stimuler à travers leurs regards et leurs oreilles. Et le kamishibai, en fait, c'est un très bon moyen parce qu'il est très visuel. Même s'ils ne comprennent pas tout, en fait, on a réussi à attirer leur attention sur la lecture, sur les sons, sur les couleurs. Et ça leur permet, en fait, de faciliter plus tard leur rentrée, en fait, dans la lecture.
Outil pertinent, donc, pour l'apprentissage de la lecture, il est aussi très adapté aux personnes en situation d'illettrisme. En valorisant l'oralité et le visuel, ce format de récit immersif permet, selon les études réalisées sur le sujet à Madagascar, de transmettre des messages sociaux et pratiques de manière ludique et sans discrimination. Sarah Teto, Antananarivo.
Aga ! S'écrie le petit bébé.
On en vient au sport enfin avec cette victoire au bout du bout d'une finale record pour Carlos Alcaraz aux Internationaux de France de Roland-Garros hier après-midi. L'Espagnol qui finalement a conservé sa couronne face au numéro 1 mondial Yannick Sinner. Il a eu besoin pour cela de 5 heures et 29 minutes d'un combat héroïque. C'est la plus longue finale de l'histoire du tournoi de Roland-Garros, match de légende. 3 balles de match sauvées, 7-6 évidemment dans le 5e set. La Ligue des Nations où le Portugal reprend une couronne abandonné en 2019, c'est du foot bien sûr. Victoire hier soir face à l'Espagne au tir au but, la France s'adjuge la 3e place en battant l'Allemagne. Et la fenêtre internationale encore avec la RDC qui clôture son stage à Orléans sur une 2e victoire. 3-1 contre les Baréas de Madagascar. 3 jours déjà après un succès 1-0 face au Mali. Comme Samuel Essendé mercredi face aux Aigles, c'était au tour de Simon Banza de s'illustrer en marquant pour la première fois sous le maillot national. Et pas un, mais 2 des 3 buts congolais. Très content bien sûr, il pense déjà à la suite. Et notamment aux éliminatoires de la Coupe du Monde au mois de septembre.
Ouais, on est content, on finit bien ce stage. Maintenant, on va se concentrer sur les prochains matchs qui sont très importants pour la suite. Et voilà, on est bien, le Congo va bien. On dira merci aussi aux supporters, ils ont été présents. Ils nous ont supportés sur les 2 matchs, donc que du bonheur. On restait sur une bonne dynamique, donc on continue encore. Et on est prêt pour le match au Martyr et en dehors.
Simon Banza, propos recueillis par Olga Massangou, le journal des sports. C'est dans une heure et c'est avec Saliou Diouf ce matin.
Afrique Matin sur RFI. Édouard Dupenoit.
3h44 en temps universel, deuxième acte d'Afrique Matin d'ici 4h. TU, la campagne de vaccination contre le chikungunya quasiment au point mort sur l'île de la Réunion. On en parle avec les journalistes de la première. Est-il possible que plus aucun gramme de manganèse brut ne soit exporté du Gabon d'ici 2029? Question et début de réponse avec Marie-Pierre Olfan pour la chronique des matières premières. On parle canard centrafricain aussi, où l'art est la manière de pallier la pénurie de poulet. Tout cela c'est dans 5 minutes. Il compte parmi les principaux fléaux qui pèsent sur les océans, qui menace la santé humaine et animale et par ricochet la ressource halieutique. On explore encore la planète bleue dans le reportage de la rédaction. Les reportages même, puisque c'est une série de 3 jours qui commence ce matin. Pour parler de la pollution plastique au large du continent africain, pollution que l'on connaît mal, on ne sait pas avec précision quelle quantité de plastique dérive au large des côtes africaines. On ne connaît pas d'ailleurs les courants qui charrient cette pollution. D'où ces missions scientifiques lancées ces dernières semaines dans le sud-ouest de l'océan Indien. Elle s'appelle Plastique Odyssée et c'est Sarah Teto qui nous les raconte.
Aussi idyllique soit-elle, les plages des Seychelles ne sont pas épargnées par les détritus qui viennent s'y échouer à chaque nouvelle marée, explique ce plagiste.
On retrouve des petits bouts de plastique, des sachets. On nettoie 2 fois par jour. Même les touristes ramassent les saletés et nous les apportent pour qu'on les mette à la poubelle.
Cette pollution, visible à différents degrés sur les côtes africaines, ainsi que ses effets, reste cependant assez mal connue à l'échelle du continent. Le scientifique Yashin Nihol, spécialiste de la chimie des océans et le co-auteur du livre « The African Marine Litter Outlook ».
Pour comprendre la pollution plastique marine, il est essentiel de commencer par identifier les sources ainsi que les voies de dispersion des déchets plastiques. En fonction des courants marins et de la topographie côtière, ces déchets s'accumulent dans certaines zones spécifiques le long des côtes africaines.
Les chercheurs ont défini 2 zones qui concentreraient des milliers de kilomètres carrés de ce qu'ils appellent des soupes de microplastiques. L'une dans l'océan Atlantique au sud de l'Afrique du Sud, l'autre dans l'océan Indien au sud de Madagascar. Néanmoins, rappelle Yashin Nihol,
il est difficile de se prononcer sur les sites exacts où s'accumule le plastique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque de données sur l'étude des courants autour du continent africain.
Et c'est particulièrement le cas pour la façade est de l'Afrique, comme l'explique Christophe Maes, océanographe et physicien à l'IRD.
L'océan Indien a un gros retard par rapport aux autres océans, tout simplement parce que c'est pas forcément le lieu de passage des principaux rails de navigation océanique.
Pour y remédier, un programme de collecte de données a lieu en ce moment même dans le sud-ouest de l'océan Indien, grâce au largage, à partir d'un navire de recherche, de bouées dérivantes qui émettent un signal GPS.
Ok Etienne, on est en position à l'arrière, la bouée est activée, on va la larguer.
Ok, bien reçu, on arrive sur zone-là.
Ok, parfait. 3, 2, 1, largage.
Ok, bouée dérivante larguée, je prends la position.
Quand on lâche les bouées, ça nous permet d'avoir une description, au moins à l'échelle de la bouée, des principaux mouvements de l'océan. Et puis à partir des modèles, d'essayer de mieux comprendre la dynamique que peuvent subir les plastiques dans l'océan Indien. Un second intérêt en fait du largage des bouées et d'étude de leur dispersion, c'est qu'on peut remonter à l'origine de ces plastiques qui viennent polluer en fait l'ensemble de la région.
Si la majorité des plastiques en mer provient de la terre ferme, les chercheurs estiment toutefois que l'abandon et la perte d'équipements de pêche dans les océans seraient responsables jusqu'à 30% de la diminution des ressources halieutiques. Sarah Teto, de retour des Seychelles, RFI.
Et deuxième volet de ces reportages sur l'émission Plastique Odyssée, demain, même heure, sur cette antenne. Vous les réécoutez aussi sur RFI Pure Radio. Afrique Éco, en Centrafrique, dans une minute. Avant cela, les grandes lignes de l'actualité internationale de ce 9 juin 2025. Et ces dizaines de dirigeants du monde entier attendus à Nice, on l'évoquait dans le journal. C'est aujourd'hui que débute, dans le sud-est de la France, la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. L'objectif de ce sommet, co-organisé par la France et par le Costa Rica, c'est d'identifier et de mettre en œuvre des solutions aux principaux défis auxquels les océans du globe sont confrontés. Édition spéciale sur notre antenne ce matin, depuis Nice, depuis la Côte d'Azur, avec Anne Cantner et ses invités, entre 8h10 et 9h, heure de Paris, 6h10, temps universel. Le Madeleine, bateau humanitaire qui tentait de rejoindre la bande de Gaza, dérouté ces dernières heures par les autorités israéliennes. Le voilier était parti d'Italie le 1er juin avec à son bord 12 militants, dont la militante suédoise Greta Thunberg, ou encore la députée européenne franco-palestinienne Rima Hassan. L'organisation Freedom Flotilla, qui a affrété le bateau, assure que l'équipage a été kidnappé par les forces israéliennes. De son côté, le ministère israélien des Affaires étrangères dit que l'embarcation fait route en toute sécurité vers les côtes d'Israël, qu'il est prévu que les passagers retournent dans leur pays. Quelques 300 militaires de la garde nationale américaine arrivés à Los Angeles, envoyés par le président Donald Trump pour rétablir l'ordre dans la ville, dit-il. Alors que des manifestations s'y déroulent contre la politique migratoire, de leur côté, les gouverneurs démocrates de Californie dénoncent un abus de pouvoir alarmant. « connaissez peut-être le proverbe qui dit que faute de grives, on mange des merles. Eh bien, faute de poulet, il se trouve qu'on mange aussi des canards. Le dossier Africeco, comme promis, en Centrafrique, auprès d'une jeune entreprise qui commercialise des anatidés, puisque c'est leur nom scientifique. Cette entreprise, c'est la Rofpal, fondée et dirigée par Natacha Rosia-Epelaki. Elle s'est rendue compte, avant les autres, que le volatile avait des arguments à faire valoir quand les gallinacés se font rares. Rolf Steph Domialeux l'a rencontré.
Dans cette concession d'environ 1 hectare, les canards sont élevés en liberté dans des cabanes en bois. L'endroit est bien aménagé et clôturé. Née dans une famille d'éleveurs et d'agriculteurs, Natacha Rosia-Epelaki s'est lancée dans l'élevage des canards il y a 3 ans. Ce matin, elle tient une vieille boîte de conserve en main et lance à la volée des graines de maïs au canetan.
Les canards sont rares sur le marché en République centrafricaine. Pendant les fêtes, les gens ne vendaient que des poulets de chair. Ce sont nos voisins congolais, deux Zongres qui ravitaillent le marché de Bangui. Et ils repartent avec l'argent. C'est ce qui m'a motivé à faire l'élevage des canards.
Dans sa combinaison bleue, Jesse Mabada, l'un des employés de l'entreprise Rofpal, prépare son pouce-pouce pour aller à la conquête des clients potentiels.
À 5h30 ici,
gars. À 5h30, on doit être là pour nous occuper des canards. Il y a beaucoup de clients à Bangui. J'arrive toujours avec une vingtaine de canards, mais le soir, je rentre avec mon pouce-pouce vide.
Certains canards sont vendus aux restaurateurs, mais la plupart sont commercialisés sur les marchés de la capitale. Natacha possède actuellement 80 canards et une centaine de canetans.
Au début, j'ai démarré avec 3 femelles et un mâle. Mais le prix minimum est de 5 000. Annuellement, je peux gagner 500 000.
Un revenu qui dépasse le salaire minimum de 29 000 francs CFA par mois. Et si le prix des canards est plus élevé d'environ 1 500 francs CFA qu'un poulet traditionnel, les canards cependant ont plus de chair, apprécient les consommateurs comme Gaëtan.
Sur les marchés, les canards ont remplacé les poulets de chair. Parce que les éleveurs de poulets ont du mal à s'approvisionner en poussins. Ces derniers jours, je n'achète que des canards pour mon restaurant.
On passe canards aussi.
Aujourd'hui, Natacha ambitionne de vendre ses canards sur tous les marchés du pays et ceux de la sous-région. Mais dans ce travail, les difficultés ne manquent pas.
Les tourteaux de soja et coton sont difficiles à trouver. Les produits vétérinaires sont chers parce qu'ils sont importés de l'étranger. Je n'ai pas de couveuse ni d'électricité photovoltaïque.
Avec son projet d'élevage de canards, l'entreprise Rofpal a remporté en avril dernier le prix du championnat des startups au salon de l'entrepreneuriat féminin à Bangui. Malgré les nombreux défis, elle compte créer cette année une unité de vente d'œufs des canards en palette, une première en République centrafricaine. Rolf Steve Domialeux, Bangui, RFI.
À Bangui comme à Libreville d'ailleurs, il est 4h52. L'économie encore et l'actualité des matières premières pour revenir sur un sujet que vous avez peut-être entendu sur cette antenne. Au 1er janvier 2029, il sera interdit d'exporter hors du Gabon du manganèse brut. Le métal devra avoir subi au moins une transformation. Exigence des autorités de Libreville qui comptent bien tirer plus de profit de leurs richesses minières. Voilà pour la théorie. Est-ce que c'est possible dans la pratique d'y arriver d'ici 3 ans et demi? On en parle avec vous, Marie-Pierre Olfan. Le Gabon, c'est le deuxième producteur mondial de manganèse, essentiellement extrait par l'entreprise Eramet.
Eramet dispose d'unités de transformation aux États-Unis, en Norvège, en France, mais aussi sur place, au Gabon. Cette transformation est chapeautée par sa filiale Comilog, qui dispose de 2 usines capables de traiter environ 20% du minerai, c'est ce qu'annonce le groupe. Le reste est exporté brut. Mais ces unités ne tournent pas au maximum de leur capacité. L'année dernière, le Gabon n'a exporté que 18 000 tonnes environ de silico-manganèse, selon le cabinet Argus Media, c'est-à-dire moins d'un tiers de ce que peut théoriquement transformer sur place le minier français. Eramet ne s'est pour l'instant pas prononcé sur les défis que pose l'annonce du gouvernement gabonais, mais a pris acte de la demande des autorités. Un expert de la filière évoque cependant une décision à l'emporte-pièce, irréaliste car elle nécessite un certain nombre de préalables qui ne sont pas réunis. La difficulté, comme toujours, quand on parle de transformation, c'est d'avoir de l'énergie disponible à un coût qui ne compromet pas la rentabilité du projet. Or, le Gabon fait face depuis une année à de nombreux délestages, faute de capacité énergétique suffisante. Les miniers tels qu'Eramet qui sont présents au Gabon auront-ils par ailleurs les reins assez solides pour débloquer les investissements nécessaires à cette industrialisation de la filière? Certains analystes en doutent. Pour l'instant, seul le cours de l'action d'Eramet a immédiatement réagi à cette annonce du gouvernement gabonais. Le prix du manganèse, lui, n'a pas été ébranlé. 90% du minerai est utilisé pour fabriquer des aciers. Le cours est donc surtout suspendu aux éventuelles perturbations dans ce secteur-là, plus qu'à une annonce qui devrait être mise en œuvre en 2029. À long terme, en revanche, le marché pourrait être perturbé si le Gabon n'arrive pas à mettre en œuvre sa stratégie. Le pays produit environ 20% du manganèse mondial et toute tension dans la filière locale peut donc avoir des conséquences sur les prix.
Marie-Pierre Olfant pour l'actualité des matières premières. Merci. Le retour de l'actualité internationale sur RFI dans 5 minutes. Avant cela, nous sommes dans les territoires français de l'océan Indien. Et pour parler très largement ce matin du chikungunya à Mayotte, mais d'abord à La Réunion, la campagne de vaccination lancée il y a 2 mois est pratiquement à l'arrêt. Alex Léveillé, bonjour.
Madame, monsieur, bonjour. En avril, la campagne de vaccination contre le chikungunya était lancée sur l'île de La Réunion. Un vaccin fortement recommandé. Résultat, 40 000 doses disponibles, mais très peu administrées. Des cas d'effets indésirables chez les personnes âgées et un décès directement lié aux injections ont mis un coup d'arrêt à la campagne. André Racotandravola de Réunion la Première.
Les professionnels de santé constatent une pause de la vaccination contre le chikungunya depuis les nouvelles recommandations pour que le vaccin X-Chik soit réservé sur demande des patients entre 18 et 65 ans uniquement. Claude Marandon, pharmacien à la Trinité.
La campagne s'est quasiment arrêtée et on a très peu de demandes.
Le doute s'est installé chez les Réunionnais, partagé sur la vaccination.
Je l'ai fait, j'ai toujours pas.
Donc c'est efficace?
Pour moi, oui, au moins. Parce qu'il y a, s'il y en a eu qui avaient certainement des grosses maladies et on a accusé le vaccin. Hein.
Vous savez, quand on a des doses de vaccins qu'on ne connaît pas trop et qui rentrent dans notre corps, on se pose beaucoup de questions.
J'ai 66 balais et je ne le ferai pas. Aucune confiance au vaccin.
Depuis qu'il y a eu le Covid, là, on n'a pas trop envie de se vacciner avec tous les problème qu'il y a eu.
Pour le pharmacien Claude Marandon, la vaccination reste un progrès de santé publique majeur. Il met en garde contre le rejet total de la vaccination.
Il faut raison garder et analyser vaccin par vaccin. Quand c'est nécessaire, on doit se faire vacciner. Aujourd'hui, la rougeole, la rubéole, la variole a disparu dans les pays civilisés. Il ne faudrait pas que ça réapparaisse parce qu'on ne se vaccine plus.
Seules environ 6000 doses ont été administrées lors de la campagne de vaccination contre le chikungunya, pour l'essentiel, avant la restriction fin avril.
Et à Mayotte, le chikungunya continue de progresser. Le virus circule sur l'ensemble du territoire. La phase 3 du plan Orsec Arbovirose a été déclenchée. Frati Youssouf Saïd de Mayotte la Première.
À ce jour, on compte 746 cas confirmés de chikungunya à Mayotte. Une personne est encore hospitalisée au CHM. Le département est en phase d'épidémie avec une transmission généralisée de la maladie sur l'ensemble du territoire. La circulation du virus est particulièrement intense dans les communes de Mamoudzou, Pamandzi et Dzaoudzi. Les autorités sanitaires craignent tout de même une sous-estimation de la maladie liée à l'absence de recours systématique aux tests de confirmation biologique du chikungunya.
Et retour à la Réunion pour parler de la communauté tamoule qui a fêté le Kavadi. Hier, les hindous ont honoré le dieu Muruga en célébrant la victoire du bien contre le mal. Après 10 jours de carême et des prières, des milliers de fidèles se sont rassemblés à Saint-Paul. André Racotandravola.
Des musiciens animent la procession, des danseurs portent sur leurs épaules des arceaux décorés, d'autres encore affichent fièrement les cicatrices d'aiguilles plantées dans la peau. Pieds nus, ils portent sur eux le poids du sacrifice.
Suite à un vœu qu'ils ont fait, ça a été réalisé, donc c'est un sacrifice.
Des haltes ponctuent le parcours pour laisser place à la danse, la musique, les prières et les offrandes.
On l'honore en donnant des plateaux pour sa protection et sa bienveillance sur nous, pour être en bonne santé surtout et le bien sur la terre.
Après plusieurs heures de marche, les pénitents sont accueillis par Serge Ajaguin-Soleillien, le président du temple de Saint-Paul. L'édifice a été construit en 1880 en l'honneur du dieu Muruga.
Là, vous voyez les pénitents qui arrivent avec des offrandes qui sont attachées au pied des champs. Ils vont offrir à la divinité un bain spirituel. Il y a du lait, du miel, de la cendre sacrée, etc. comme récompense pour adoucir un peu la vie.
Le Kavadi est un rite très important pour les Tamouls. Il a réuni ce dimanche plusieurs centaines de fidèles dans l'Ouest.
Et c'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous.
Merci Alex Léveillé, très bonne journée à vous et à tous les confrères de la première. C'est la fin aussi de cette première édition africaine sur la radio du monde, Afrique Matin, réalisée par Laurent Hérault en ce début de semaine. Merci à lui. Nemo en piste à la rédaction en chef de l'information. Afrique Matin, vous savez, c'est aussi une adresse pour nous écrire en un seul mot. africematin@rfi.fr. Albert Kishima, vous nous écoutez peut-être déjà depuis Kinshasa où vous nous avez écrit. On vous salue, on vous souhaite un très bon début de semaine. Et puis RFI, c'est aussi un site internet, rfi.fr. À la une de notre page Afrique, le retour mouvementé de l'opposant camerounais Maurice Kamto à Douala. Le journal dans 30 secondes.
La troisième conférence des Nations Unies sur l'océan, Simon Rosé.
Cette semaine, RFI met les océans à l'honneur. À l'occasion du sommet des Nations Unies qui leur est dédié, la Radio du Monde océanise ses programmes. Nos sociétés dépendent des océans. Ils ont une valeur culturelle, patrimoniale, économique, mais ils vont mal. Retrouvez nos éditions spéciales, nos magazines et les reportages de nos correspondants et envoyés spéciaux sur les mers du monde entier. C'est toute la semaine sur les ondes de RFI et rfi.fr.